Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Alain Prochian est devenu scientifique par accident. Ce grand lecteur féru d'histoire des sciences a décidé d'aimer ce qu'il faisait plutôt que de faire ce qu'il aimait. Et depuis, le neurobiologiste a travaillé toute sa carrière sur la morphogenèse. Vous en saurez plus sur la question dans quelques minutes. Un parcours brillant, exigeant et marqué par des épreuves également. Il raconte dans son dernier essai, intitulé « Accident », une découverte scientifique importante qu'il a faite dans les années 80 avec son laboratoire. Une découverte accidentelle qui a suscité une certaine perplexité dans la communauté scientifique. Et cet épisode lui a inspiré une réflexion sur l'état actuel de notre République des sciences. Il analyse, tel un sociologue, les dessous de sa profession et de la recherche scientifique aujourd'hui. Membre de l'Académie des sciences et professeur émérite au Collège de France, il livre un plaidoyer engagé pour une science libre et créatrice. Alain Prochian, bonjour et merci d'être au micro de Canal Académie.
Bonjour, merci de l'invitation.
Pour parler de cet essai, alors je rappelle son titre « Accident, regard sur la République des sciences » et vous expliquez en introduction que le choix d'écrire ce livre s'est imposé après la lecture d'un autre livre. Et là, je dois dire que vous nous étonnez, Alain Prochian, puisqu'il s'agit de La vie sexuelle de Catherine M. Dans ce livre publié en 2001, la romancière française détaille, décortique le récit de sa vie sexuelle. C'est une référence qu'on ne s'attend pas à trouver dans votre essai. Quel est le dénominateur commun entre La vie sexuelle de Catherine M. et ce livre, Alain Prochian ?
Oui, c'est pas là où on le croit.
Non. Là,
ce que j'avais beaucoup aimé dans le livre de Catherine M., que j'ai lu assez tard, en fait, de Catherine Millet, donc, c'est sa façon de mettre à la fois dehors et dedans, c'est-à-dire de se prendre elle-même comme un objet sociologique à partir de sa propre pratique, qui en l'occurrence c'est une pratique assez répandue à l'époque dans certains milieux, d'une grande liberté sexuelle. Mais ce n'est pas ça le plus important pour elle. Dans la lecture que j'en ai faite, le plus intéressant, c'est l'habileté avec laquelle elle était capable de tenir des propos plus généraux à partir d'une expérience personnelle. Et c'est ce que j'ai voulu faire sur la science à partir d'une expérience personnelle. Donc en fait, j'aurais dû appeler ce livre « La vie scientifique d'Alain P. »
Ça aurait dû s'appeler comme ça, mais vous n'étiez pas certain.
Oui, moi j'ai hésité devant le ridicule.
Ce livre s'appelle « Accident », je le rappelle encore une fois. Ce qui est intéressant dans ce livre de Catherine Millet, c'est ce que vous disiez, c'est qu'elle adopte un regard presque de sociologue, d'anthropologue. C'est cette démarche qui vous a séduit ?
Absolument. Et la difficulté de la démarche aussi. Elle s'en sort très très bien, mieux que moi.
Votre démarche s'éloigne de celle qui est traditionnellement adoptée par les sociologues des sciences. Je pense à Bruno Latour, qui est peut-être l'exemple le plus important, qui, lui, est allé passer un an, deux ans dans un laboratoire pour en tirer des conclusions assez généralistes. Vous, vous avez travaillé près de 50 ans en laboratoire avant de décider de faire ce pas de côté pour analyser votre milieu professionnel.
Oui, c'est un pas de côté qui est aussi un pas dedans. Donc, c'est dehors-dedans. Latour était... on pourrait dire anthropologue, d'une certaine façon, ou sociologue, mais il ne s'intéressait pas à sa propre science, il s'intéressait plutôt à la science des autres.
Vous, c'est votre propre science que vous avez étudiée. Et venons-en au cœur du sujet. C'est une découverte accidentelle que vous avez faite dans les années 80 qui vous a entraîné dans cette longue réflexion sur l'état de la recherche scientifique aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été cet accident, cette découverte ? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin des années 80 ?
C'était pas une découverte, c'était une observation. C'est-à-dire que vous savez, il y a un long chemin entre l'observation et la découverte, même si la découverte est petite. L'observation, c'était un contrôle dans une expérience, un contrôle qui a mal tourné, c'est-à-dire qui a donné un résultat qui était très inattendu et qui laissait supposer que des protéines, qui sont des molécules hydrophiles, hein, c'est-à-dire qui ne traversent pas les lipides, hein, l'eau ne se mélange pas à l'huile, comme vous savez, ces molécules hydrophiles étaient capables de traverser en fait, des couches hydrophobes, comme l'huile, que sont les membranes. Et ça, c'était tout à fait inattendu. Ça allait contre, je dirais, le concept qu'on avait classiquement de ce qu'est une membrane biologique. Alors évidemment, ça soulevait des problèmes. Moi aussi, ça en a soulevé pas mal. Mais bon, une fois que ça a été répété 15 fois, il a bien fallu se plier à l'évidence. Oui, ça arrivait donc. Après, bon, on a déroulé le fil.
C'est une observation qui a eu du mal à s'imposer, mais pour que les auditeurs comprennent bien, on va peut-être dézoomer et reparler de votre spécialité. J'ai précisé en introduction que vous étiez morphogénéticien, c'est-à-dire que vous vous intéressez à la manière dont les tissus, les organes dans notre corps vont se former, Et, par exemple, une des questions à laquelle vous vous intéressez, pourquoi une main ressemble à une main, un pied ressemble à un pied? C'est le genre de questions sur lesquelles vous travaillez, c'est bien ça?
Oui, parce que ce sont les mêmes cellules. Si vous faites une expérience par la pensée, que vous prenez une main et que vous la dissociez en cellules, vous aurez des cellules fibroblastes, des cellules de poils, des cellules d'os, des cellules de muscles. Si vous dissociez un pied, vous aurez les mêmes cellules. Mais à cet endroit-là, c'est une main et en bas, c'est un pied.
Qu'est-ce qui explique cette différence?
C'est la position, justement. C'est le lien entre la forme que prend un organe, que prend l'assemblage des cellules qui forment un organe en fonction de la position de l'organe dans l'axe du corps, dans la géométrie du corps. Et ça, c'est un truc très important parce que ça ouvre sur ce qu'on appelle la découverte d'un certain nombre de gènes de développement qui, justement, font varier la forme en fonction de la position. Et là où c'est vrai pour les organes, c'est probablement aussi vrai pour les cellules, en particulier pour les cellules nerveuses, parce que je suis morphogénéticien, comme vous dites, mais je suis quand même avant tout neurobiologiste.
Neurobiologiste. Et donc, dans le cadre de ces recherches, vous avez beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les homéoprotéines.
Oui.
Ce sont ces protéines qui sont impliquées dans cette découverte. Et vous, ce que vous avez découvert, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est que ces protéines peuvent traverser la membrane de cellules.
Ce qu'on a découvert, c'est que certaines d'entre elles, on n'a pas scié sur toutes, donc il faut faire attention. Mais en tout cas, une très grande quantité, puisqu'un de mes collègues en a fait ça pour 150 ou 160, c'est quand même pas mal, sont capables de sortir, alors que ce sont des facteurs nucléaires, normalement ils sont dans le noyau. Ils régulent l'expression des gènes dans le noyau, c'est des facteurs de transcription. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, elles sont capables de sortir de la cellule, de traverser la membrane d'une autre cellule, de rentrer dans l'autre et aller directement au noyau de l'autre. C'était presque trop simple, en fait. Pour moi aussi, c'était très inattendu, je ne le cacherai pas.
Parce qu'à l'époque, on pensait que ces protéines ne pouvaient pas traverser une membrane, donc cette observation, elle est complètement à contre-courant de la science établie à l'époque.
Elle était assez à contre-courant pour différentes raisons, d'ailleurs, pas uniquement sur les membranes. Parce que ce qu'il y a des protéines dont on sait qu'elles pouvaient traverser les membranes, ce n'est pas la première. Mais une famille si large, c'était un peu bouleversant. Ouais.
Et c'est pour cette raison, précisément, que cette observation a laissé sceptique une grande partie de la communauté scientifique à l'époque.
Je me suis posé la question. Je pense qu'elle a laissé sceptique parce qu'elle remettait en cause l'idée qu'on faisait de la nature de la membrane des cellules. La membrane des cellules, si vous voulez, ça a longtemps été comme le mur de Berlin. On peut entrer, mais il faut montrer patte blanche, passer par un canal. Mais comme ça, traverser la bicouche membranaire, c'était pas ce muraille, c'était du Marcel Aimé.
C'était très improbable et vous racontez dans cet essai que cette période a été une période de doute intense pour vous. En tout cas, vous êtes beaucoup remis en question. Vous racontez même cette anecdote très violente dans ce livre où un jour, une collègue, lors d'un congrès, vous a carrément conseillé d'arrêter la recherche.
Un collègue. Oui, il était un peu emporté, oui. Non, mais c'est pas ça qui était le plus gênant. Enfin, c'était un peu blessant par moments, mais le plus gênant, c'est le doute qu'on porte soi-même. C'est-à-dire que... J'avais quand même un laboratoire, il y avait des gens qui travaillaient là-dessus. Où est l'erreur, quoi? On se pose toujours la question, malgré tout. À moins d'être cinglé, on se pose la question.
À cette époque donc, de doutes très personnels, vous étiez quand même bien entouré parce que, en même temps, vous dites que c'était un moment extrêmement stimulant pour vous. Vous étiez très bien entouré dans votre laboratoire et ce fut une période de très solidaire, très, très puissante.
J'ai eu la chance, ce que j'appelle le jeu collectif, pas J-E-U, mais J-E. J'ai eu la chance de travailler en particulier au début avec deux collègues merveilleux, Michel Volovitch et Alain Joliot, l'arrière petit-fils de Marie Curie. Et en fait, on était tous les trois très engagés dans cette histoire. Donc c'était une affaire... c'était aussi une affaire amicale, mais ils étaient très rigoureux. Ils m'ont beaucoup aidé parce que ce sont des scientifiques de très haut niveau avec une vraie inventivité technique tous les deux. Donc sans eux, on n'aurait jamais réussi à le faire.
Vous travaillez toujours avec eux?
Avec Michel, oui, j'ai vu Michel hier, il est venu, on a parlé un peu clonage, tous les deux. Avec Alain, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps, on parlait anticorps, on s'est changé des anticorps. On ne travaille plus véritablement ensemble, mais c'est de l'amitié. Donc,
l'amitié est très importante, elle a toujours été très importante dans votre carrière, vous
dans
dites...
Dans ma vie, l'amitié est très importante, oui. J'ai peu d'amis, mais j'y tiens.
Je reviens à cette observation, à cette découverte donc, que vous avez faite. Il vous aura fallu 15 ans pour sortir des controverses, vous dites. Pourquoi autant de temps à prouver que vous aviez raison?
Parce que c'est long. Au début, c'était juste une partie de la protéine qui avait traversé les membranes. Et pour être sûr que ça arrivait, il fallait comprendre un peu le mécanisme par lequel ça rentre. Donc, il a fallu faire pas mal d'expériences pour identifier le fragment qui permet de traverser la membrane, ensuite le muter, le changer. Enfin, il y a toute une partie préliminaire qui prend du temps. Puis ensuite, si vous voulez, il y a montré que les protéines entrent et sortent, trouver les séquences, permettre d'entrer, permettre de sortir. Et enfin, la seule question vraiment importante, c'est à quoi ça sert. C'est-à-dire, est-ce que c'est un artefact vérifié, mais qui n'a pas de fonction physiologique, ou est-ce qu'il y a des fonctions physiologiques? Et alors là, vous entrez dans un domaine qui est beaucoup plus périlleux, beaucoup plus long, beaucoup plus difficile. Il faut faire des modèles animaux, des choses comme ça. Donc oui, 15 ans, finalement, ce n'est pas si long que ça. Hein. En fait, c'est même assez court.
Aujourd'hui, cette découverte, elle est totalement établie.
C'est un mode de signalisation entre les cellules qui est, oui, qui est... Quand j'en vois un article aujourd'hui fondé sur ce mode de signalisation, je n'ai plus aucune remarque désagréable. Je ne dirais pas que ça me manque, mais ça m'étonne toujours un peu. C'est le syndrome de l'enfant battu. Mais qu'est-ce qui se passe?
Vous parliez des implications il y a quelques instants. À ce stade, on a du mal à se représenter. Quelles sont les implications peut-être thérapeutiques derrière cette observation? À quoi sert-elle exactement?
Les implications, comme disait Claude Bernard, donc, pour qui j'ai,
un de vos
que j'ai
maîtres...
une grande admiration, il n'y a pas une physiologie pour la santé et une physiologie pour la maladie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une physique pour construire les ponts, une physique pour expliquer pourquoi ils s'écroulent. Donc c'est exactement la même chose. Donc si vous découvrez, même par inadvertance, une nouvelle voie de signalisation physiologique, alors évidemment, si ça déraille, eh bien, ça ouvre sur des pathologies. Et donc, c'est une nouvelle façon de regarder ou de rechercher si, par hasard, cette voie, quand elle déraille, n'est pas à l'origine de pathologies. Du coup, en fait, j'étais plutôt, comme vous dites, morphogénéticien, neurobiologiste du développement, hein, parce que ces protéines sont des produits de gènes du développement, même si elles sont toujours exprimées chez l'adulte. Parce que le développement se prolonge chez l'adulte. Hein. Eh bien, oui, ça m'a amené à m'intéresser à des maladies neurologiques et psychiatriques. Oui.
Comme par exemple lesquelles ?
On s'est intéressé beaucoup à la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, on s'intéresse encore plus à la maladie de Charcot. Et puis, on s'intéresse aux maladies de l'humeur. Hein. Dépression, anxiété, des choses comme ça. Donc oui, il y a du boulot. Oui.
Malgré un accueil assez hostile à l'époque, vous avez pu continuer vos recherches. Ça aurait été plus difficile d'imposer cette recherche, cette observation aujourd'hui?
Oui, je pense. C'est-à-dire que le monde a changé. Je ne dirais pas que c'était mieux avant, parce que c'est un propos de vieux, mais non. Il y a des choses qui sont mieux aujourd'hui. Hein. Et il y a des choses qui étaient mieux avant. Ce qui était mieux avant, à mon avis, c'est qu'on était plus protégés dans les travaux qu'on voulait faire. C'est-à-dire qu'il y avait moins de court-termistes. Qu'on m'a donné du temps, voilà. Bon, c'est vrai que j'avais déjà une petite surface. J'avais bien réussi avant, et puis cette observation, on l'a faite quand j'avais 41 ans, donc c'est pas un truc de gamin. Hein.
Vous étiez déjà établi.
J'étais déjà, pour beaucoup, j'étais déjà un vieux monsieur, voilà. Mais du fait, j'avais donc une petite surface, et il y a quand même des gens qui faisaient confiance. Et puis, il y avait moins de recherches sur contrat, même si on avait déjà, il y avait une plus grande partie qui était de l'argent récurrent venant des établissements publics. De recherche, et donc on avait une grande liberté malgré tout, il y avait moins d'évaluation permanente. Je suis inténieux, hein, donc peut-être même aujourd'hui je m'accrocherais, mais je pense que ce serait beaucoup moins facile. C'était un peu douloureux, mais bon, finalement on a pu faire, puis ça aurait pu rater, hein, surtout ça. Ce que je défends, c'est la part du risque dans la recherche, et je crois qu'il était plus facile dans les années 80-90 de mener des recherches à risque, justement à cause de cette sécurité financière et cette sécurité de l'emploi, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué quand même. Le risque, c'est quand même essentiel. Hein.
On va approfondir cette question juste après. Mais un mot, vous disiez quand même, la recherche d'aujourd'hui a quelques aspects positifs. Qu'est-ce qu'il y a de mieux aujourd'hui?
Alors, il y a de grands aspects positifs. C'est-à-dire que ça dépend si tu regardes en France ou de façon internationale. Mais simplement en France, quand Claude Paoletti, en 1990, a créé ce qu'on appelait les ATIP, ça, c'est un truc très positif. Ça permettait à des jeunes chercheurs, de retour d'un stage postdoctoral, de monter leur propre laboratoire, de ne pas entrer sous la coupe d'un mandarin. Et ça, c'était libérateur pour la recherche biologique en France. Il y a aussi toutes les technologies qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, on vit dans une période où les technologies sont tellement puissantes qu'on peut quasiment faire tout ce qu'on imagine. Et ça, je pense que c'est évidemment... Alors, c'est à la fois un plus et un moins, parce que probablement qu'on se livre trop à la facilité technologique et moins à la réflexion conceptuelle. Mais les grandes technologies font voir des choses qui aussi excitent le concept. Donc, ouais, ça, c'est bien aussi. C'est même assez enthousiasmant.
Vous qui avez fait un parcours irréprochable, donc je le rappelle, vous avez fait Normal Sup, une thèse au MIT et Paris 7. Vous avez été administrateur du Collège de France. Vous avez fait un parcours sans faute. Et pourtant, vous faites un plaidoyer pour le droit à l'erreur dans ce livre.
J'ai fait beaucoup d'erreurs. En tout cas, j'ai pris pas mal de risques. D'abord, simplement celui de faire une thèse sur le virus de la mosaïque du navet pour faire un postdoc sur le cerveau.
C'était
déjà un bon, mais un peu inconscient, hein. Non, je pense que le droit à l'erreur devrait être inscrit en lettres d'or sur tous les panthéons de la science. Si on n'a pas le droit à l'erreur, alors je pense qu'il n'y a plus de science. C'est fini. En science, vous savez, ça rate toujours. C'est le truc de Beckett, hein, rater mieux. Voilà, ça rate et après ça rate mieux et c'est comme ça que ça avance. Si on ne veut pas prendre le risque de perdre, il ne faut pas jouer. Hein.
Il n'y a pas de pensée sans risque. Vous citez le philosophe Dominique Lecourc, disparu en 2022. Il y a quelques mois, nous recevions un autre membre de l'Académie des sciences, le biologiste Jean-Claude Veil, pour son livre « Éloge de l'imprévu ». Et il aboutissait aux mêmes conclusions que vous dans ce livre. Il insistait beaucoup sur le fait que les plus grandes découvertes scientifiques ont été faites par des personnalités atypiques, avec un esprit très créatif.
Barbara McClintock, par exemple.
Voilà, je l'ai cité à Albert Einstein, mais également cette scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, les génies scientifiques de demain sont tués dans l'œuf, dès le début?
Je ne sais pas. J'aime beaucoup Jean-Claude Veil. Hein. Jean-Claude est un ami. C'est un type formidable. Hein. C'est un type vraiment extraordinaire. Ouais. Oui, il a raison, bien sûr. Alors, non, je ne crois pas, parce que j'ai assez confiance quand même que ça peut échapper toujours. C'est plus difficile, il y a plus de conformisme, probablement. C'est devenu un métier qui est plus institutionnalisé dans sa façon de travailler. Donc, des gens comme Jean-Claude, on en rencontre assez peu. Il y a des études qui ont été faites, hein, je cite, je crois, dans la conclusion, qui s'appelle « Fin de partie », c'est toujours un hommage à Beckett, je crois. Cette étude de Nature... Ils ont établi un index de créativité et ce qu'ils montrent, c'est que c'est passé de 40 à 50% dans les années 60 à presque zéro aujourd'hui, en tout cas pour les sciences biologiques, mais pour toutes les disciplines et dans tous les pays. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'on critique beaucoup la recherche en France. Je pense qu'on a raison, elle est incroyablement mal financée, donc ça c'est un gâchis. Mais il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau mondial qui fait qu'elle est financée d'une façon... ou qu'elle fonctionne d'une façon, notre République des sciences, qui ne facilite pas la prise de risque, qui ne facilite pas le droit à l'erreur et qui, de ce fait, ne facilite pas la créativité. Oui.
Et qui n'invite pas à la flânerie intellectuelle. Vous êtes un grand lecteur, passionné de l'histoire de science, je le disais. Vous aimez lire vos ancêtres, Claude Bernard, Darwin, et même Bergson, des auteurs qui, a priori, n'appartiennent pas à votre champ disciplinaire. Mais ça fait partie aussi de votre travail, de flâner intellectuellement. La flânerie donne plus de chances d'accéder à la découverte, vous dites. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est en chute libre?
Ben, je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de mes jeunes collègues. Je parle souvent avec eux parce que j'ai des post-doctorants au laboratoire. Mais ça dépend des individus. Hein. Il y en a qui... Ce matin, j'écris une lettre de recommandation pour l'un d'entre eux. Et ce qui me frappait en réfléchissant à son parcours, c'est que c'était un type incroyablement curieux. Et puis après, j'ai vu son CV, j'ai vu qu'il écrivait des poèmes, donc ouais, c'est pas étonnant. Donc. Mais c'est, j'espère, un futur grand savant. Non, je pense qu'il y a toujours des personnalités comme ça. Mais il faut tout, hein. C'est-à-dire que j'apprécie qu'il y ait des personnalités de ce type, mais j'ai aussi une grande appréciation pour les gens qui ne sont pas du tout comme ça. Hein. Il y a tout pour faire un monde scientifique. Il faut des gens qui sont ce que j'appelle des fonctionnaires de la preuve, mais absolument essentiels pour faire tourner la machine. Et parfois à l'origine de très grandes découvertes eux-mêmes. Et puis, il faut des esprits un peu plus fantasques. Voilà, le livre, ce serait un petit peu dans un monde où c'est essentiellement des gens sérieux, la défense du mal adapté. Hein. La défense du mal adapté, je pense que c'est pas mal. Je veux parler de Jean-Claude, je pense qu'aujourd'hui, Jean-Claude est un mal adapté d'une certaine façon. Il est out of the box, comme on dit.
Complètement. Il a une autre vie avant de devenir biologiste.
Oui, il a une autre vie. Bon, on dit beaucoup de bien qu'on soit très amis et que je le connaisse très bien.
En tout cas, c'est ce que vous dites, tous les scientifiques ne sont pas des créatifs, mais pour ceux qui sont créatifs,
ils sont pas créatifs de cette façon-là.
Il faut leur laisser...
Ils peuvent être créatifs d'une autre façon. J'espère avoir été clair dans le livre. Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie entre les façons de faire de la science. Mais il faut autoriser aussi de la faire comme j'ai essayé de la faire. Pas vraiment réussi, puisque je suis devenu un mandarin, donc là encore, j'ai raté. Bon, ça rate toujours, je vous le disais.
Comment réintroduire les moyens d'une véritable liberté intellectuelle dans la recherche aujourd'hui ?
Je crois qu'il faut encourager les études scientifiques plus longues. Il faut introduire de l'histoire des sciences dans les cursus. Il faut permettre de faire des thèses sur des périodes un peu plus longues que 3 ans. Il faut financer fortement les gens qui ont montré qu'ils étaient capables de faire. Il faut garder une recherche sur contrat, parce que je pense qu'elle est importante, évidemment, mais il faut aussi avoir un petit peu l'équivalent des Max Planck en Allemagne, quand quelqu'un a vraiment bien réussi, eh bien, et qu'il a un laboratoire dans un institut Max Planck, eh bien, jusqu'à la fin de leur carrière, ils ont une liberté totale de recherche. Et ça, je pense que c'est vraiment important, oui.
Vous dites que le nerf de la guerre se trouve à la fois dans le mode de financement, dans les méthodes de publication et d'évaluation. Alors déjà, un point sur le mode de financement, vous dites qu'aujourd'hui, la recherche est peut-être trop au service de la demande sociétale. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En quoi c'est un problème, en fait ?
Le problème, c'est le trop. Parce qu'il faut répondre à la demande sociétale, c'est normal, hein. Mais il faut plus de contrats qui sont des contrats libres, d'une certaine façon, ou des financements qui sont des financements libres. Et c'est quelque chose de tout à fait pas contre la demande sociétale, comme vous dites. C'est aussi dans la demande sociétale, parce que la liberté de la recherche peut faire partie de la demande sociétale. Et en fait, ce qu'on appelle les applications, les résultats qui sont bénéfiques pour l'agriculture, pour la santé, quelque domaine que ce soit, on ne peut pas forcément les prédire. Tout à l'heure, je parlais de Barbara McClintock, par exemple, qui est une grande scientifique qui a eu le prix Nobel, je crois, dans les années 60, et qui a découvert ce qu'on appelle les éléments transposables dans le génome. C'est elle qui a découvert la première fois qu'il y a des éléments génétiques qui sautent et puis qui vont d'un endroit, on appelle ça les jeunes sauteurs. Elle a découvert ça chez le maïs, parce que chez le maïs, il y a dans un épi jaune, il y a des grains qui sont bleus ou verts ou roses, ou ce que vous voulez. Et en fait, c'est lié à des instabilités génétiques. Bon, quand elle travaillait sur l'instabilité génétique chez le maïs, on ne pouvait pas imaginer qu'aujourd'hui, ces instabilités génétiques sont vues comme les causes principales des maladies neurologiques ou du cancer. Donc, faut faire attention. Comme je disais, il n'y a pas une physiologie pour la santé et une autre pour la maladie. Donc, quand on travaille pour la santé, c'est-à-dire pour la physiologie, sans se demander si elle est bonne pour la santé, eh bien, on a des fortes chances de trouver des choses qui sont intéressantes pour les pathologies.
Vous faites une proposition intéressante aussi pour changer la façon d'évaluer les équipes scientifiques. Vous expliquez qu'on n'évalue pas là où ce serait forcément le plus utile. Vous proposez d'évaluer plutôt les marges plutôt que la norme. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Les index utilisés aujourd'hui pour classer les chercheurs, pour classer les équipes, qui sont des index internationaux, sont un peu ridicules. Mais ils peuvent avoir une utilité, c'est-à-dire de permettre de ranger les équipes sur une courbe de Gauss en fonction de leur discipline. Et si vous faites une courbe de Gauss comme ça, eh bien, il y a des gens qui sont au centre, qui sont donc dans la norme, le plus proche de la norme, et ces gens-là, ils sont très bien. Ils sont évalués, de certaine façon, à travers les publications qui donnent lieu à la calcul de ces index, des citations, et donc ils sont déjà évalués, donc ils sont dans la norme, ils sont bien. Ce serait bien de pouvoir discuter avec eux, de les évaluer bien, mais en fait, l'évaluation n'a pas le temps. On évalue tout le monde et tout le temps, donc ça devient un peu ridicule. En revanche, il y a ceux qui sont aux extrémités du spectre, les très mauvais, les 10% les très mauvais, les 10%
très bon.
Superman, hein, Woman. Et ceux-là, je pense que c'est là qu'il faut évaluer. On perd sur son temps à évaluer tout le monde, on ne peut pas. Alors les 10% les plus extraordinaires, là-dedans, il y a aussi ce qu'on appelle des opérateurs, des gens qui font de la gonflette, qui publient plus d'articles qu'ils ne peuvent en écrire. Quand on a publié 800 articles dans sa vie, c'est-à-dire dans une vie scientifique, quelque chose comme 15 par an, un par mois.
C'est un peu beaucoup.
Moi, j'y crois pas. Voilà. Mais bon, tant mieux pour eux. On va pas les punir pour ça. Mais au moins, on sait qu'ils font de la gonflette. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les gens qui sont de l'autre côté, dans les 10% les plus faibles. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, effectivement, ça marche pas. Et peut-être ces problèmes d'organisation, peut-être ça peut y faire. Peut-être qu'il faut les accompagner un petit peu avant de les fermer. Il faut savoir aussi, des fois, dire bon, ça va, c'est fini. Il ou elle n'est pas capable. Mais des fois, c'est plus compliqué que ça, donc ça vaut le coup d'accompagner. Et puis, il peut y avoir des gens qui ont des projets qui sont très difficiles, très originaux, qui mettent du temps à développer, qui sont mal compris de la communauté. Et cela, c'est comme les petits rameaux verts qu'il faut protéger des fangs dans la forêt en mettant des petits grillages. Il faut les protéger et voir ce que ça donne. Peut-être que ça ne sera pas jusqu'au bout, mais au moins, leur donner une chance. Et je pense que c'est quand même effectivement aux bornes que les choses se jouent. Et là, il faut que les comités d'évaluation ils portent une grande attention à ces bornes. Aujourd'hui, comment on évalue ? Ben, en gros, je veux dire, on n'a pas le temps. Hein. J'ai été évaluateur, donc c'est une autocritique aussi, bien entendu. Bon, ben, on compte les articles dans les grands journaux, comme on compte les piles de draps dans l'armoire normande, quoi. En gros, c'est un peu ça, surtout. Et puis, les gens, ils vous font 10 minutes d'exposé sur 5 ans de recherche. Non, non, non. Ce serait bien de pouvoir lire 2 ou 3 articles à fond et d'en discuter avec les gens à fond. On ne peut pas le faire pour tout le monde. Non, on n'a pas le temps. Je veux dire.
Donc plutôt s'occuper des marges.
Ouais. Bon, c'est une proposition comme une autre, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein.
Elle a des chances d'aboutir ?
Non. Non, 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 parce que les classements, ils ne sont faits pas pour les marges, ils sont faits pour ceux du centre. Et c'est là où il y a un problème. Parce que les très bons, qui ont des grands machins, on dit c'est très bien, les autres disent c'est mauvais, et puis on ne va pas rechercher plus loin. Donc en fait, ce qu'on classe, c'est ceux du centre, et je pense que c'est là qu'est l'erreur. Voilà. Mais bon, c'était juste un exemple comme ça.
On sent une forme d'engagement, de militantisme presque dans ce livre. À qui s'adresse-t-il ? À des collègues plus jeunes, à des sociologues, à des anthropologues ? Ce sera ma dernière question.
Il s'adresse un peu à tout le monde. D'abord, il s'est adressé à moi. J'ai pas mal ressassé toutes ces histoires, hein, donc j'avais envie de l'écrire. Quoi. Grâce à Catherine Millet, j'ai pu m'y mettre. Ça s'adresse aux jeunes chercheurs, pas mal, je crois. J'ai beaucoup pensé aux étudiants de mon laboratoire, aux post-docs de mon laboratoire quand j'ai écrit ça. Et puis, évidemment, ça s'adresse aux sociologues de la science qui veulent savoir comment ça fonctionne, parce que je pense qu'après 52 ans de laboratoire, j'ai une petite idée quand même de comment ça fonctionne. Pas parfaite, hein, j'ai des doutes des fois. Et puis, aux politiques, mais je pense que les politiques s'en fichent.
Voilà. Vos étudiants, ils l'ont lu ? Vous avez eu des retours ?
J'ai fait pas mal lire, pas à mes étudiants, parce qu'ils le liront après. J'avais peur d'écrire ce livre un petit peu.
Ce que vous dites au début, ouais.
J'avais un peu peur parce que c'est pas sympa de parler de soi. Je suis obligé de parler de moi puisque je pars de ma vie pour aller sur la République des sciences. Et donc, vous êtes obligé de parler un petit peu de vous. Et les gens qui parlent d'eux, ils sont pas sympas. Ils sont, c'est pas agréable. Et donc, j'ai fait relire par beaucoup de gens, au moins 15 de personnes qui ont lu le livre. Et qui... Ils m'ont corrigé beaucoup. J'ai pris beaucoup de corrections, de leurs corrections. Puis après, quand j'ai eu le feu vert, et hop... On y va.
Et vous concluez par ces mots, il y a urgence.
Oui, il y a urgence, oui. Il y a urgence. Il y a urgence parce qu'il y a de plus en plus de jeunes gens qui ne se dirigent plus vers la science ou qui, quand ils ont fait une thèse de science, n'y restent pas. Il y a de moins en moins de financement libre. La créativité est en chute libre. Et surtout, ce qui me gêne le plus dans l'urgence, c'est la faction, je dis, illibérale de fonctionner de la République des sciences. C'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de discussions ouvertes. La science, vous savez, c'est une discussion entre amis. Je cite beaucoup Sidney Brenner, qui est un de mes modèles.
Des aphorismes.
Lui, il n'est pas susceptible de ne pas être un bon scientifique, puisqu'il a eu le prix Nobel. Donc,
il
aurait même pu en avoir 2, à vrai dire. Ça m'a rassuré de voir qu'il disait des choses très proches de ce que je dis sur ce qu'on appellerait aujourd'hui une République illibérale. Voilà. Donc, oui, il faut réagir, hein. Bien sûr.
Il faut réagir. Merci beaucoup Alain Prochian. Je rappelle le titre de votre livre « Accident, regard sur la République des sciences » et il est disponible aux éditions Audi Jacob.
Voilà, merci.
Merci beaucoup.
Canal Académie.